On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Les jardins de Terre et Urbanisme expérimentent et transmettent les pratiques de l'agroécologie. Ayant pour objet la relation harmonieuse entre l'humain et la nature, l'agroécologie est à la fois une éthique de vie et une pratique agricole. En compagnie de Pierre-François, nous partons à la découverte de Terre et Urbanisme et de l'agroécologie.
Parce que l'agroécologie, c'est un ensemble de pratiques agricoles, mais c'est également une éthique de vie basée sur la sobriété heureuse. On n'est pas dans la quête du toujours plus, mais plutôt faire l'éloge de la puissance de la modération, comme dirait Pierre Rabhi, qui a inspiré notre association. Et puis aussi, soigner les relations humaines. On soigne la terre, on prend soin de la terre, mais il faut aussi prendre soin des relations humaines. Et pour nous, c'est très important, la convivialité, et aussi retisser un maillage social local. Donc favoriser le commerce local, favoriser les échanges de travail, les échanges de savoir-faire.
Donc différents axes, avant de te laisser continuer à me parler, j'aimerais qu'on revienne sur l'origine de l'agroécologie. Pourquoi est-ce que, à quoi est-ce que ça s'oppose et pourquoi avoir voulu développer un nouveau mode de production agricole ?
Alors les origines de l'agroécologie, elles sont assez anciennes, elles ne sont pas très précises. On trouve des textes qui datent des années 30, qui viennent plutôt d'Europe de l'Est. Et il y a eu, je dirais simultanément dans le monde, comme ça se produit souvent, l'émergence de ce concept. Et c'est vrai qu'en France, Pierre Rabhi a été un des pionniers à diffuser l'agroécologie. Il l'a d'abord pratiqué sur la terre ardéchoise, dans un contexte très difficile, où il a restauré les sols et après il a commencé à divulguer et à transmettre ce concept. Alors c'est un mode alternatif de production, puisque au lieu de s'opposer au vivant, on va chercher une alliance avec le vivant. Et donc le premier organisme vivant auquel on s'intéresse, c'est le sol. Alors le sol, c'est souvent considéré comme un substrat, et notamment dans l'agriculture industrielle, chimique, nous on le considère comme un organisme vivant. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de ce sol, il y a une microfaune, une microflore, qui sont très actives et qui jouent un rôle très important pour la fécondité du sol et sa fertilité.
Mais l'observation du sol, l'observation de la nature, c'est quelque chose qui n'est pas récent. L'homme, pendant des années, pendant longtemps, était dans l'observation des phénomènes naturels qui l'entourent.
Ben oui, je pense que pendant des siècles, les hommes ont cherché à imiter la nature. Si l'on regarde le système forestier, qui est un système qui se perpétue par lui-même sans l'intervention de l'homme, on a toujours la matière végétale qui retourne au sol. On a les micro-organismes et d'autres organismes qui vont transformer cette matière végétale, l'incorporer au sol, constituer une litière où il y a un mariage du minéral, du végétal et de l'animal. Et tout le monde sait que quand on va se promener dans une forêt naturelle, je dirais, ça sent cette merveilleuse odeur de l'humus, et c'est ça qui est le gage de la fertilité du sol. Et dans le passé, toutes les sociétés qui ont produit leur alimentation ont quand même cherché à reproduire ce système sans apport de produits extérieurs.
Alors qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire ? Pourquoi est-ce qu'un jour quelqu'un s'est dit ben, « Tiens, on va justement apporter des produits extérieurs et mettre un petit peu de chimie dans tout ça ?»
Ben, il y a un chimiste allemand qui s'est dit « Mais tiens, si je brûle les plantes et que j'analyse les cendres, et leur composition, je vais savoir ce dont les plantes vont avoir besoin pour se développer et croître. » Et donc c'est ainsi qu'ont été mises en évidence la potasse, l'azote, le phosphore. Et donc c'est un nom qui est très connu, hein, c'est M. Leibniz qui a fait cette découverte et qui est un peu resté, qui n'a pas été très diffusé. Et puis il s'est trouvé qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on avait des stocks très importants qui avaient servi à fabriquer les diverses bombes qui ont été utilisées et qui utilisaient aussi ces produits. Et donc l'industrie chimique qui produisait de l'armement s'est convertie en une industrie, a ressorti les travaux de ce scientifique allemand pour convertir toutes ses capacités de production et ses stocks en production d'engrais minéraux solubles obtenus par voie chimique. Et ça a été proposé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale comme une solution pour nourrir les populations qui sortaient de ces années de conflits où la production agricole avait chuté.
Donc ceux qui alimentaient les guerres sont aussi ceux qui se sont mis à nourrir la planète.
Voilà, en tout cas à fournir ces produits pour que l'on développe la production agricole. Mais malheureusement, on ne développe pas une production agricole de qualité. Mmh. Voilà.
Et qu'est-ce qui fait que les paysans qui étaient habitués à leurs méthodes traditionnelles se sont mis à épandre les produits proposés par ces grandes firmes ?
Mais d'abord parce qu'il y a eu un système de vulgarisation et de diffusion assez performant qui a été mis en place. Et puis il est vrai que si on arrive sur un terrain vierge en quelque sorte de tout produit chimique et qu'on commence à mettre des engrais solubles, on va avoir un effet tout à fait remarquable. Mais cet effet, il n'est pas durable. C'est-à-dire que pendant quelques années, effectivement, ça va fonctionner. Et puis, mais qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui dans l'agriculture intensive industrielle ? C'est que les gens sont obligés de mettre toujours plus d'intrants et on observe globalement une chute des rendements. Donc c'est assez parlant. Ça montre que là, on apporte des solutés chimiques, des sels minéraux solubles aux plantes. C'est comme si on les mettait sous perfusion. Et l'inconvénient, c'est qu'en faisant ça, on contribue à tuer toute la vie qui est dans le sol, parce que ces produits chimiques sont nocifs, sont toxiques, et donc on détruit les vers de terre, on détruit toute la microfaune, la microflore qui se trouve dans le sol. Donc on passe d'un sol vivant à un sol qui effectivement devient un substrat qu'il faut tout le temps mettre sous perfusion pour pouvoir continuer à produire.
Alors ça, aujourd'hui, ça se vérifie facilement. Il suffit d'aller dans une monoculture et regarder un petit peu, gratter la terre et voir ce qu'on y voit. Donc c'est quelque chose qui n'est plus à prouver. Maintenant qu'on le sait, hein, qu'on arrive à l'observer, c'est comme ça qu'est née l'agroécologie ou l'agriculture biologique ou la permaculture ou tous ces différents concepts qu'on entend autour de nous.
Oui, je pense qu'ils ont été... Il y a des gens qui ont pris conscience très tôt hein, de ces dérives et de ces façons toxiques pour la terre. Et aussi pour les hommes de pratiquer. Et donc il y a plusieurs courants qui sont développés, plusieurs écoles, plusieurs approches qui ont vraiment commencé à se développer dès les années 60. Donc c'est pas tout nouveau non plus. Et pour proposer des méthodes alternatives de conduite des cultures qui permettent de préserver l'environnement, de régénérer les sols et surtout de produire une alimentation de qualité qui soit saine et qui soit elle-même probiotique, c'est-à-dire fournisseuse de vie.
On entend parler de la chaîne alimentaire, donc on sait que l'homme est au bout de cette chaîne. Donc quand on va balancer un engrais ou un produit chimique dans la terre pour faire pousser une tomate, un maïs ou un légume, que l'homme va l'ingérer derrière, est-ce qu'on retrouvera une partie, un des produits utilisés dans le corps de l'homme ?
Bien sûr, il y a des analyses qui ont été faites. Il y a eu notamment il y a quelques années de ça, une commissaire européenne à l'environnement qui a fait pratiquer une analyse sanguine pour détecter tous les produits chimiques qui pouvaient se trouver dans son sang. Et on a trouvé des résidus de pesticides, des résidus d'engrais, mais aussi des produits provenant de la pollution de l'air ou de l'eau. Donc ça, c'est des choses qui sont avérées. Et on sait aussi que ce qu'on oublie souvent, c'est que l'emploi de ces pesticides, par exemple, est très toxique pour les gens qui les manipulent. Et malheureusement, dans la population agricole, on a un nombre d'affections de type cancer qui sont très importantes. due à l'inhalation et au contact avec ces pesticides.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Ras-le-bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Y'a trop de feux rouges dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur.
Alors aujourd'hui, là, on est dans les jardins de Terre et Humanisme, en Ardèche, à la Blachère. Donc c'est un peu comme une vitrine pour montrer qu'on peut très bien produire des légumes, des fruits, autrement.
Tout à fait. Surtout qu'ici, on a démarré sur une terre très difficile, sur laquelle les anciens n'avaient réussi à faire pousser que de la vigne. Et a priori, on peut supposer qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Et donc, il y a eu tout un travail de restauration de la fertilité de ces sols. Le site a été mis en culture à partir de l'année 2001 et c'est vraiment à partir de 2005-2006 qu'on a commencé à voir les effets de la régénération de ces sols qui ont commencé à vraiment se transformer et sur lesquels on peut cultiver des légumes qui sont, comme chacun le sait, exigeants en matière organique et qui ont besoin d'une terre meuble et d'une certaine profondeur de sol.
Et avec le temps, donc, un équilibre se trouve au niveau du substrat du sol. On arrive à redévelopper un écosystème.
Voilà, alors cet écosystème, on le récupère en utilisant... Alors nous, on utilise beaucoup le compost, qui en fait est un levain pour la terre. C'est un concentré de matière qui, comme pour le pain, va permettre une sorte de fermentation et qui va... favoriser le développement de la microfaune et de la microflore du sol. Et ça permet aux vers de terre aussi de venir faire leur travail. On oublie que le vers de terre, c'était le premier des jardiniers. C'est lui qui fait tout le travail d'aller chercher en profondeur les éléments minéraux pour les ramener à la surface. Et c'est beaucoup plus efficace que les engrais solubles. Et pour recréer l'écosystème, donc il faut à la fois travailler sur le sol, mais je dirais il faut aussi aménager, c'est-à-dire planter des haies, planter des arbres fruitiers, favoriser... Nous, on a installé des micro-mares un peu sur les parcelles pour favoriser aussi la vie aquatique. Et bon, ben les grenouilles, les crapauds, les salamandres sont aussi deux prédateurs des cultures. Et donc, d'essayer de recréer un équilibre, un écosystème en équilibre dans les jardins. Et c'est pour ça qu'on est aussi assez tolérant vis-à-vis de ce qu'on appelle, entre guillemets, les mauvaises herbes, qui sont là, en fait, pour nous renseigner sur l'état de notre sol. C'est-à-dire, si on observe la flore spontanée, ça donne des enseignements très importants sur l'état de vie et le dynamisme du sol, les carences qu'il peut y avoir, les excès d'eau, etc., etc.
Donc on en revient à l'observation de la nature.
Voilà, observer et imiter et optimiser aussi en fonction de nos connaissances les pratiques.
Donc là on parle du sol, on parle de l'agriculture. C'est ça, l'agroécologie ?
Alors, c'est pas seulement ça. C'est aussi, comme je disais au début, une éthique de vie. C'est-à-dire que de la même manière qu'on prend soin de la terre, on essaye de créer un équilibre naturel, eh ben, il faut aussi prendre soin des relations humaines et créer un équilibre stable entre que l'humanité, que les gens puissent avoir des relations équilibrées, qui ne soient pas toujours basées sur la domination, sur la comparaison, etc. Et qu'on part du postulat que la biodiversité, elle est aussi humaine, et que donc on peut composer aussi avec toutes les personnalités, etc. Et de la même manière que on favorise la collaboration entre les diverses parties du monde vivant dans les jardins, eh ben, il faut aussi favoriser la collaboration entre les hommes pour l'entraide, pour les échanges de savoir et apprendre à vivre ensemble. Et ça, c'est pas le plus simple.
Donc c'est vraiment un mode de vie, mais ça, on l'a aussi vu à travers d'autres outils comme la communication non violente, où plein de choses existent pour mieux vivre ensemble.
Oui, oui. Ben, la communication non violente, c'est un outil, effectivement, qui est très, très approprié. On peut pratiquer la communication non violente et continuer à s'approvisionner avec des produits qui viennent de l'autre bout du monde ou manger des tomates en plein hiver, etc. Donc c'est sur la relation humaine, mais c'est aussi sur les relations, je dirais, commerciales, les relations de travail qu'il faut aussi se pencher et prendre en compte pour mieux vivre ensemble.
Donc aussi réfléchir sur le pouvoir de ses actes, agir en conscience, réfléchir à qui on est et ce qu'on fait au quotidien.
Bien sûr, dans les biens qu'on achète pour se nourrir, c'est toujours mieux de privilégier le local, ce qui est disponible localement, pour éviter les coûts de transport, les nombres d'intermédiaires, etc. De la même manière, quand on veut acheter un bien culturel, on peut très bien l'acheter sur Internet à l'autre bout du monde, mais on peut très bien aussi se le procurer chez quelqu'un localement qui vit de cette activité. Et en ce faisant, on maintient un tissu local, on maintient une vie locale, une économie locale. Et c'est très important de relocaliser l'économie sur les territoires. Sinon, tout le monde va s'agglutiner dans les villes et puis... En plus, on a de moins en moins d'agriculteurs, donc que vont devenir les espaces ruraux.
On a un peu parlé des modes de consommation, donc favoriser le local et les circuits courts. On a parlé d'un modèle de production agricole, à savoir respectueux de l'environnement et de la terre. D'une manière de vivre tous ensemble, vivre ensemble d'une manière peut-être aussi plus simple. Tu parlais de sobriété heureuse au début. Tout ça, ça m'évoque aussi la permaculture, qui lui aussi est un mode de vie. On n'a pas parlé de l'habitat non plus.
Oui. Alors effectivement, la permaculture, c'est une approche globale qui vise aussi les composantes agricoles, mais aussi à s'inscrire au mieux dans son environnement physique, mais aussi relationnel, et qui intègre aussi la gestion des énergies, d'utiliser le mieux possible les énergies disponibles, le vent, l'eau, etc., le soleil, et pour créer finalement un petit écosystème autonome. Alors autonome ne veut pas dire autarcique, mais qui produit l'essentiel de ce qu'il consomme. Donc c'est une approche plus holistique, plus globale, qui n'est pas si éloignée de l'agroécologie, mais nous les humains, on a un défaut, on aime bien mettre des noms et créer des catégories. Alors il y a un exercice que beaucoup de gens pratiquent, quels sont les points communs, les différences entre la permaculture et l'agroécologie, ça donne lieu à de grands débats, mais tout ça finalement est très très proche.
L'habitat, oui. Est-ce qu'on prend aussi en considération l'habitat de l'homme dans la démarche agroécologique ?
Oui, on essaye de promouvoir un habitat le plus naturel possible. Par exemple ici, le lieu où nous nous trouvons, tous les bâtiments, c'était une ferme ruinée au départ, tous les bâtiments ont été réhabilités le plus possible avec des matériaux naturels. L'isolation a été réalisée avec de la chaux et du chanvre, ou bien de la ouate de cellulose, de manière à utiliser le plus de produits naturels possible. On oublie bien souvent que on introduit énormément de pollution chimique dans notre habitat et que ce n'est pas sans conséquence sur notre santé.
de l'avenir ne me rassure pas. Après la peste et le cancer, l'entrée du sida, qui nous aurait dit ça? Dans quel monde vivons-nous? Vas-y, explique-moi pourquoi ils mangent à leur faim et gardent les restes comme des rats. Et papa travaille dur pour nourrir toute la MIFA, et pourtant il n'y arrive pas, obligé de faire la manche pour assurer les fins de mois. Mais dans quel monde vivons-nous? Vas-y, explique-moi. Explique-moi, moi qui ne comprends vraiment pas pourquoi. Non, c'est l'hiver, faut que les gens meurent de froid pour qu'on leur trouve un toit. La misère n'est pas de guerre et toi tu préfères faire la guerre. Règle les problèmes qu'il y a chez toi, tu sais d'abord. Règle les problèmes qu'il y a chez toi et mais dans quel monde on vit? Explique-moi si tu le peux, dans quel monde vit-on? Non, j'en crois pas mes yeux. Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Hey, dans quel monde on vit? Explique-moi si tu le peux, dans quel monde vit-on? Non, j'en crois pas mes yeux. Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Les élus, que ne feraient-ils pas pour aller au présidentiel? C'est réel, contaminer des gens avec du sang, c'est cruel. Comme le goût d'une secte qui brûle tous ses fidèles. Le dictateur tue tous ceux qui se rebellent. La vie est belle lorsque l'on est du bon côté. Les génocides n'épargnent pas les minorités. Et lorsque je mange cette nourriture transgénique, emballée et munie d'une bande magnétique, c'est la famine en Afrique. Ne me dites pas que le G7 n'a pas assez de fric. Dans quel monde on vit? Explique-moi si tu le veux, dans quel monde vit-on? Non, j'en crois pas mes yeux. Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Hey, dans quel monde on vit? Explique-moi si tu le peux, dans quel monde vit-on? Non, j'en crois pas mes yeux. Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous?
On est là assis à l'ombre, en Ardèche, dans les jardins de Terre et Humanisme. En quelques mots, c'est quoi Terre et Humanisme?
Alors Terre et Humanisme est une association de type loi 1901 d'intérêt général qui a pour mission de partager et de transmettre l'agroécologie. Donc nous sommes un organisme de formation. Donc on organise des stages sur le potager agroécologique, mais aussi sur la cuisine, parce qu'une fois qu'on a produit, ben, il faut savoir utiliser au mieux les productions et puis aussi savoir élaborer une alimentation équilibrée, savoir transformer ces produits, les conserver, etc. Et on a des formations sur l'apiculture, sur la permaculture également, donc comme quoi on n'est pas très éloigné. Et puis des formations plus spécifiques sur la santé des plantes, des choses comme ça, les ressources sauvages, qui sont des formations plus pointues. Et puis on a une formation longue, qui est une formation d'animateur en agroécologie pour les gens qui souhaitent œuvrer à la transmission de l'agroécologie. Voilà. Et on a une autre modalité de partage de l'agroécologie, c'est l'accueil de bénévoles. Ici, de mars à octobre, on accueille des bénévoles qui viennent travailler avec nous dans les jardins, mais aussi en cuisine, et qui donc peuvent aborder l'agroécologie par la partie jardin, pratique, en travaillant avec les jardiniers, mais qui aussi expérimentent le vivre ensemble, puisque les bénévoles sont les seuls habitants permanents du lieu. Nous qui travaillons ici, salariés, c'est un lieu de travail, on le quitte le soir et on revient le matin, et donc le lieu est rendu aussi vivant par les bénévoles qui sont ici. Donc pour eux, c'est aussi important d'expérimenter le vivre ensemble, la vie en collectif, que d'apprendre les pratiques agroécologiques. Et puis le troisième mode de transmission, mais ce n'est pas vraiment un mode, c'est plutôt une troisième activité, c'est le travail qu'on mène en solidarité internationale, où on propose l'agroécologie, en fait on répond à des demandes pour proposer des solutions techniques qu'on construit avec les gens, à partir de leurs savoir-faire locaux, pour pouvoir diffuser l'agroécologie comme solution qui va permettre d'atteindre la sécurité alimentaire, l'autonomie et aussi la souveraineté alimentaire.
Pourquoi selon toi, les gens s'interrogent sur le vivre autrement?
Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font le constat que la société de consommation dans laquelle nous nous trouvons, c'est pas ça qui apporte la joie ou le bonheur, et qu'il y a peut-être d'autres moyens d'organiser sa vie pour être plus dans cette joie de vivre et que tout le monde recherche. Aussi, le monde du travail actuellement est quand même assez dur et beaucoup de gens sont à saturation par rapport aux conditions d'existence qui sont les leurs, avec les transports, les exigences de rendement qui sont posées et tout. Et il y a quand même beaucoup de gens qui se disent finalement, à quoi ça rime tout ça, et est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire pour vivre de manière plus harmonieuse? Et donc ça, c'est des prises de conscience qui surviennent. Enfin, prise de conscience, c'est un peu, ça paraît un peu spontané, alors qu'en fait, souvent, c'est le fruit d'un processus, plutôt un éveil de la conscience qui s'éveille à autre chose, quoi. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'être en chemin. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, on réalise certaines choses, on prend conscience de certaines choses, et puis après, on rentre en évolution. Et chacun part de là où il est, il avance à sa vitesse, et l'essentiel, c'est d'être dans cette dynamique de changement et d'évolution. Et c'est vrai qu'ici, il y a des gens qui arrivent, qui repartent, qui changent carrément de vie, quoi. On observe régulièrement des phénomènes tels que cela, où les gens découvrent, bah oui, finalement, il y a d'autres manières de vivre en alliance avec la nature, il y a d'autres manières de vivre ensemble. Je ne suis pas obligé de rester dans un système qui me martyrise, qui me contraint.
Mais il y a quand même souvent la contrainte du modèle économique qu'il faut trouver quand on veut vivre une vie peut-être plus alternative ou aller vers la sobriété heureuse.
Ah ben c'est sûr, hein, ça procède, toute décision, tout choix procède aussi d'un renoncement. Et donc ce qui est important, c'est d'aller à sa propre vitesse, hein, de ce qui est possible maintenant et de ce qui sera possible demain. Et de savoir que c'est pas du jour au lendemain qu'on peut changer de système ou de manière de vivre, mais que c'est un processus qui doit maturer. Et puis je crois qu'il faut renoncer à certaines choses qui sont comme l'accumulation, le paraître, etc., qui sont des choses qui sont très prégnantes dans notre société, où on nous dit travailler plus pour gagner plus, où il faut avoir telle montre ou tel véhicule pour avoir une reconnaissance sociale. Bon, est-ce que c'est ça le plus important, ou est-ce que c'est son propre bonheur?
Et toute cette idéologie, on la retrouve dans l'agroécologie.
Oui, je ne sais pas si on peut parler d'idéologie, mais en tout cas, c'est une proposition alternative qui va jusqu'à à proposer un changement de société. Et en proposant la relocalisation de l'économie sur le territoire, en proposant que la préoccupation environnementale soit première.
Est-ce que tu constates un engouement dans nos sociétés actuelles vers ces modes de vie un peu différents ?
Moi, je constate en tout cas que ici, au niveau du bénévolat, c'est toujours plein, que les gens doivent s'inscrire longtemps à l'avance, donc c'est un signe. Nos stages de formation aussi se remplissent. Et puis, il y a toute la dynamique qui a été lancée par Colibri, qui est donc une association qui a son siège à Paris et qui travaille à appuyer les initiatives citoyennes. Et en disant finalement le changement, il viendra pas en haut, il viendra pas du politique, par contre il viendra de la base, et que partout en France et ailleurs il y a des initiatives citoyennes qui se développent, qui sont innovantes, qui sont souvent alternatives, qui fonctionnent et qui méritent d'être connues pour que les gens s'en inspirent et éventuellement se les approprient. Donc Colibri travaille beaucoup sur ce thème-là, à les recenser et aussi à mettre en lien les gens sur un territoire pour qu'ils puissent commencer à mettre des choses en acte ensemble.
Pour terminer, Pierre-François, je te demandais de citer une citation que tu aimes bien, une petite sagesse, une petite phrase qui te parle, que tu as envie de partager.
Moi, j'ai envie de citer une phrase qui est connue, qui ne sera pas révolutionnaire, hein, où on dit « si tu veux changer le monde, commence par changer toi-même ». Je crois que c'est Gandhi qui a
Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde.
Exactement, et on peut aussi le formuler différemment. C'est bien de cultiver son jardin, mais il faut aussi cultiver son jardin intérieur. Et ça, c'est des phrases qui me paraissent importantes, des notions qui me paraissent importantes. Et j'en ajouterai une que j'aime beaucoup. Je crois que c'est, elle provient de la tradition bouddhiste. Alors, je ne sais pas si les auditeurs sont anglophones, mais elle est facile à comprendre. « There is no way to happiness. Happiness is the way. »
Il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin.
Voilà.
Merci Pierre-François.
Avec plaisir.
Merci Pierre-François pour cette rencontre enrichissante. Pour en savoir plus sur l'association Terre et Humanisme, rendez-vous sur internet terre-humanisme.org.